VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, bienvenue dans ce journal de ce vendredi 21 février 2020 sur VOA Afrique. En direct du studio 16 de la Voix de l'Amérique à Washington, Nanit Talani
et Anne Albertson.
Au sommaire ce matin,
rencontre entre les présidents Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda pour essayer de résoudre le conflit qui les oppose.
Entretien entre Fayez El-Sarraj, chef du gouvernement libyen d'Union nationale, et le président turc Recep Tayyip Erdogan qui lie les engagements en Libye à un cessez-le-feu.
Les Algériens célèbrent le premier anniversaire du Hirak, leur mouvement de contestation populaire.
Engagement des talibans afghans à respecter les termes d'un accord qu'ils signeront bientôt avec les États-Unis.
Dans notre partie magazine, nous nous rendrons au Togo à la rencontre des jeunes qui s'apprêtent à élire demain leur nouveau président.
Nous irons aussi au Niger qui accueille le festival de l'Aïr au son des danses traditionnelles, de poésie musicale et de courses de chameaux.
Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais tout d'abord le journal.
Les présidents Paul Kagame du Rwanda et son homologue Yoweri Museveni de l'Ouganda se rencontrent aujourd'hui à la frontière entre leurs pays pour tenter de résoudre le conflit qui les oppose. Le point avec Eddy Isango.
C'est à Katuna, localité entre les deux pays, que les Rwandais Paul Kagame et son voisin ougandais Yoweri Museveni vont essayer d'enterrer la hache de guerre. La rencontre se tiendra sous la médiation de leur homologue congolais Félix Tshisekedi et du président angolais João Lourenço. Elle sera la quatrième du genre. Museveni et Kagame s'étaient déjà rencontrés le 21 août dernier à Luanda en Angola. Ils avaient promis de régler leurs différends et échanger des prisonniers, ce qui a été fait jusque mardi. La tension entre les deux voisins s'était attisée l'année dernière. Kigali et Kampala s'accusaient mutuellement d'espionnage et de soutenir des rebelles. M. Kagame avait récemment proféré des menaces à peine voilées contre son ancien allié. Leur rencontre aujourd'hui s'inscrit dans un nouvel effort pour faire baisser la tension.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu jeudi à Istanbul avec Fayez El-Sarraj, chef du gouvernement libyen d'union nationale. La Turquie a assuré que ses engagements en Libye sont liés à un cessez-le-feu. Nathalie Barge.
Le gouvernement de Tripoli a mis fin à sa participation pour parler cette semaine après des tirs de roquettes sur un port de la capitale, mais est retourné à la table des négociations hier à Genève. Si le cessez-le-feu n'est pas maintenu, le transfert vers un processus politique est très difficile, a déclaré hier le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Un cessez-le-feu a été conclu en janvier sous les auspices de la Russie, soutien du maréchal Haftar, et de la Turquie, alliée de Fayez al-Sarraj. Lors d'un sommet à Berlin en janvier, plusieurs pays dont la Russie, la Turquie, la France et l'Égypte ont convenu de mettre fin aux ingérences étrangères en Libye et de respecter un embargo sur les armes décrété par l'ONU.
Les Algériens bouclent aujourd'hui pour la 53e semaine consécutive de marche hebdomadaire un an du Hirak, le mouvement de contestation populaire qui aura contraint Abdelaziz Bouteflika à démissionner, mais sans réussir à changer le système qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance. Le pacte pour l'alternance démocratique, qui regroupe des partis et associations en pointe dans le mouvement de contestation, a appelé avec d'autres à faire des 21 et 22 février 2020 un moment fort de la mobilisation populaire pour disqualifier l'agenda de la régénération du système et jeter les bases d'une nouvelle république.
Le Hirak reste confronté à de nombreux défis alors qu'il entame sa deuxième année au moment où le régime reprend ses forces. Il y a de la façade constitutionnelle et démocratique, mais en fait, c'est exactement ce qu'il y avait avant. Tebboune n'est que la façade civile d'un régime qui reste aux mains de l'institution militaire, estime Dalia Ghanem, chercheuse à Beyrouth au Liban. Le fait de voir des Algériens réunis chaque vendredi depuis un an, femmes, hommes, berbères, chaouis, kabyles, frères musulmans et laïcs, dans la rue, c'est extraordinaire, remarque aussi Dalia Ghanem. Il y a aussi le mur de la peur qui a été détruit par cette nouvelle génération très politisée et qui sait ce qu'elle veut. L'an 2 du Hirak le dira.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Deux passagers australiens du paquebot Diamond Princess, testés positifs au nouveau coronavirus en Australie, avaient été initialement testés négatifs au Japon, ont annoncé aujourd'hui les autorités sanitaires. Pourtant, l'ensemble des 164 Australiens évacués du paquebot en quarantaine au Japon et rentrés chez eux en début de semaine avaient été testés négatifs au Japon, selon les autorités. Cette annonce est de nature à susciter des questions sur les procédures employées par les autorités japonaises concernant les occupants du Diamond Princess, qui est le plus important foyer du virus hors de Chine. Des centaines de personnes ont été autorisées à quitter le navire après avoir été testées négatives à la maladie et bon nombre d'entre elles sont rentrées dans leur pays respectif pour y être de nouveau mises en quarantaine.
Les autorités sud-coréennes ont annoncé ce vendredi avoir enregistré 52 nouveaux cas de la maladie du coronavirus, ce qui porte à 156 le bilan de patients ayant été testés positifs au nouveau coronavirus dans le pays. De son côté, l'Irak, inquiet de deux décès en Iran dus au nouveau coronavirus, a interdit depuis hier aux Iraniens l'entrée sur son sol et à ses ressortissants de se rendre en République islamique.
Quelques 58 millions d'Iraniens sont appelés à élire un nouveau parlement ce vendredi pour un scrutin où les conservateurs partent favoris, portés par un ressentiment populaire contre le président modéré Hassan Rouhani, alimenté entre autres par la crise économique. Les bureaux de vote ont ouvert à 08h locale et fermeront à 18h. La 11e législature à sortir des urnes depuis la révolution islamique de 1979 commencera son travail dans un contexte de tensions exacerbées entre Téhéran et Washington et alors que l'Iran traverse une violente récession. Les élections se tiennent aussi près d'un mois et demi après que les forces armées iraniennes ont abattu par erreur un avion de ligne ukrainien, drame qui a ajouté à la défiance de la population vis-à-vis des autorités.
Les talibans afghans en sont pleinement engagés à respecter les termes d'un accord qu'ils doivent signer prochainement avec les États-Unis. C'est Sirajuddin Haqqani, numéro 2 des talibans, qui l'affirme dans un très rare éditorial paru dans le New York Times. Le point avec Abdurrahman Dia.
Ce que les talibans veulent est le titre d'un article inédit paru dans le New York Times. Sirajuddin Haqqani, à la tête du réseau Haqqani, la branche la plus sanglante des insurgés afghans, écrit « Nous sommes sur le point de signer un accord avec les États-Unis et nous sommes pleinement engagés à en appliquer toutes les dispositions dans la lettre et l'esprit ». Le texte est écrit en anglais alors que son dernier message audio qui remonte à 2017 était en langue pashtoune. Washington devrait commencer à retirer ses troupes d'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires. M. Haqqani s'est montré rassurant quant à leur volonté d'empêcher des groupes extrémistes de trouver refuge en Afghanistan, une autre clause du futur accord de paix. Les talibans ont toujours refusé de prendre langue avec les autorités afghanes, qualifiées de marionnettes, mais M. Haqqani s'est montré plutôt optimiste. Il affirme qu'ils sont engagés à travailler avec les autres partis dans un esprit de respect sincère afin de trouver un nouveau système politique inclusif. D'après un haut responsable afghan, la signature pourrait intervenir le 29 février à Doha après une année de négociations entre les États-Unis et les talibans.
Roger Stone, l'ancien conseiller du président américain Donald Trump, a été condamné hier à 3 ans et 4 mois de prison. Son procès a déclenché une polémique ici à Washington en raison des accusations d'intervention du président dans le dossier. Les précisions de Jacques Aristide.
Le département américain de la justice avait déjugé ses procureurs qui avaient initialement requis entre 7 et 9 ans contre Roger Stone, reconnu coupable en novembre dernier d'avoir menti au Congrès. Ce département s'est toutefois défendu d'avoir agi sur instruction de la Maison-Blanche. Ces recommandations d'une sentence comprise entre 3 et 4 ans ont été suivies par la juge fédérale Amy Jackson. Après le prononcé de peine, elle a déclaré que Roger Stone n'avait pas été poursuivi pour avoir défendu le président, mais pour l'avoir couvert, dit-elle, tout en se félicitant que la vérité existe et importe toujours. À Las Vegas hier, le président Trump a indiqué que Roger Stone a de bonnes chances d'être innocenté, sans confirmer s'il utiliserait son droit de grâce pour réhabiliter son ancien conseiller. Le chef de l'exécutif américain avait déjà dénoncé une erreur judiciaire, mais laissé planer le doute quant à une amnistie présidentielle pour ce consultant de 67 ans, connu pour son style flamboyant et son tatouage de Richard Nixon dans le dos.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Jacques Aristide.
Des enquêtes sur la mauvaise gestion présumée des grands travaux présidentiels ont conduit à l'interpellation d'un patron du BTP en République démocratique du Congo, où les autorités tentent de lutter contre la corruption endémique. Le directeur général de la compagnie Safricas a été retenu au parquet mercredi dernier. Safricas est l'une des entreprises qui construisent une demi-douzaine de ponts routiers devant enjamber les chaussées à Kinshasa pour en finir avec les bouchons au grand croisement de la capitale. Appelés sauts de mouton par les Kinois, ils sont toujours inachevés, comme d'autres chantiers lancés dans la foulée de l'investiture du président Félix Tshisekedi il y a un an. Le chef de l'État a demandé un audit sur les fonds débloqués pour ces ouvrages. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont paraphé à Abidjan hier un accord qui va permettre aux pays ouest-africains de doubler sa production d'énergie renouvelable d'ici 10 ans. La fourniture d'électricité est actuellement largement assurée par l'énergie thermique et les barrages hydroélectriques. La banque publique allemande KfW, bras financier de l'État, va accorder 6,5 millions de dollars américains, une augmentation de la participation de la Côte d'Ivoire au capital de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, dont une des missions est d'attirer des investissements en énergie renouvelable. L'Allemagne est le principal bailleur de fonds de la construction de la première centrale solaire, d'un coût prévu de 38 millions d'euros en Côte d'Ivoire.
Maintenant, les nouvelles sportives avec Yakuba Ouédraogo. Nous commençons par le Cameroun qui a clôturé le tournoi de Brazzaville par un match nul.
Oui, pour leur second match dans le mini-tournoi, nouvelle étape de leur préparation pour le CHAN 2020, les Lions Indomptables se sont accrochés au pays hôte 1-1. Dimanche dernier, le Cameroun a ouvert la compétition après un succès 1-0 contre la République démocratique du Congo. Cap sur le tournoi à Yaoundé pour continuer la préparation. Les Lions Indomptables affronteront le Rwanda le 24 février à domicile. Pour la phase finale, le Cameroun figure dans le groupe A avec le Mali, le Zimbabwe et le Burkina Faso. La compétition aura lieu du 4 au 25 avril prochain.
Le Zamalek remporte la Supercoupe d'Égypte devant Al Ahly.
Oui, une semaine après leur titre en Supercoupe CAF devant l'Espérance de Tunis, les Cavaliers se sont offerts la Supercoupe d'Égypte devant le rival Al Ahly. 4-3 dans les tirs au but. Ce derby du Caire s'est transporté au stade Mohamed Bin Zayed d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Dans un stade plein, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, 0-0 à la fin du temps réglementaire, même score au bout du temps additionnel.
L'étoile du Sahel s'offre les services de Zouaghi.
Kaïs Zouaghi prend les rênes des stylistes pour une durée d'un an et demi. Il remplace l'Espagnol Juan Carlos Garrido qui a été relevé de ses fonctions. Pour insuffisance de résultats, Zouaghi revient sur le banc du club tunisien après avoir été entraîneur adjoint entre 2017 et 2018 comme joueur. Il a enfilé le maillot de l'étoile du Sahel en tant que défenseur de 1999 à 2006. L'étoile affronte la formation marocaine du Wydad Athletic Club dans les quarts de finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine à Casablanca, avant d'accueillir le match retour 7 jours plus tard.
Yakuba, pour terminer, le tirage au sort de la phase finale Basketball Africa League a été effectué.
Les 12 équipes issues des qualifications pour cette première édition ont été réparties en deux conférences. La conférence Nil comprend River Hoopers du Nigeria, FAP du Cameroun, Ferroviaro du Mozambique, Patriot du Rwanda, Zamalek d'Égypte et US Monastir de Tunisie. Cette conférence disputera ses rencontres à Monastir, au Caire et à Lagos. On retrouve GS Pétrolier, Petro Luanda, AS Salé, AS Douane, GNBC et AS Police dans la conférence Sahara. Les matchs prévus à Dakar, à Salé et à Luanda débutent le 13 mars prochain dans la capitale sénégalaise. Les 4 meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les playoffs qui auront lieu à Kigali à partir du 28 mai. Et puisqu'on parle de basketball, on y reste.
En NBA, Milwaukee a battu Détroit 126 à 106. Miami s'est incliné devant Atlanta 124 à 129. Défaite de Brooklyn face à Philadelphie 104 à 112. Et enfin, Charlotte a pris le meilleur sur Chicago 103 à 93.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nanit Talani, toujours en votre compagnie depuis Washington. Maintenant, place au dossier du jour. La campagne électorale pour la présidentielle de demain au Togo a pris fin hier sur toute l'étendue du territoire. L'éducation, l'économie et la santé étaient entre autres les sujets au centre des discours des 7 candidats qui sont retenus pour le premier tour de cette présidentielle. La jeunesse du pays, qui ne se voit pas véritablement dans la ligne de mire des prétendants à la magistrature suprême, veut être plus considérée non pas seulement dans les discours politiques, mais aussi dans la mise en œuvre des plans de développement. Notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Mbo, a rencontré quelques jeunes Togolais. Voici son reportage.
Cela fait plus de 5 ans que Moutalib, la trentaine, a obtenu une licence en droit à l'université de Lomé. Mais il est actuellement conducteur de taxi moto, communément appelé Zemidia.
Comme ça n'allait pas, et j'ai frappé à certaines portes. J'avais commencé par travailler dans certaines petites entreprises. Et par après, comme c'était des entreprises privées aussi qui n'avaient pas assez de moi, ils ont finalement, jeté les points. Après, je ne peux pas rester les bras croisés comme ça. Donc je me suis dit, je dois me lancer dans quelque chose pour pouvoir mobiliser un peu de fonds et commencer l'entrepreneuriat.
Comme Moutalib, ils sont nombreux, ces jeunes Togolais, à se forger un avenir dans l'informel. Ici, au ministère de la fonction publique, les plus téméraires chercheurs d'emploi continuent de déposer leur dossier de candidature.
C'est une obligation pour nous, parce qu'on a fréquenté, on veut du travail, on doit travailler.
Alors, je suis là pour faire le dépôt du concours du ministère de la fonction publique, comptable niveau bac.
Pour Moutalib, le scrutin de samedi est d'une importance capitale, non pas seulement pour lui, mais aussi pour le peuple togolais.
Je vais voter, bien sûr, parce que c'est mon pays qui en dépend, c'est le développement de mon pays, c'est la nature de mon pays et l'avenir de la jeunesse qui en dépend.
Comme c'est un droit civique, je dois rappeler mon devoir.
On espère que ce qu'on va voter se ressentira au niveau du score et que ce ne sera pas une élection non transparente.
Pendant ce temps, les candidats pour le scrutin multiplient les rencontres avec de potentiels électeurs dans les différentes régions du pays. Chacun d'eux pour séduire l'électorat et graine des chapelets de promesses. La jeunesse togolaise, qui visiblement semble se lasser des promesses électorales, espère une amélioration de ses conditions de vie.
On n'a qu'à nous aider, mais c'est tout ça simplement, parce que c'est une visite, les gens s'ouvrent, mais on n'a qu'à nous aider.
Ce que nous demandons que le gouvernement fasse, c'est quoi? Qu'ils essayent de voir ceux-là qui ont l'âge avancé un tout petit peu, qu'on les appelle, qu'on essaie de les insérer en attendant. Vous voyez déjà, sinon ce serait un peu difficile de voir la majorité des diplômés en chômage. On peut toutefois quand même essayer de voir ce niveau.
Le clap de la fin de la campagne électorale a été donné jeudi. Samedi, plus de 3,6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour une élection qui, espère-t-on, donnera un nouvel élan de développement au Togo, notamment à sa jeunesse qui compte beaucoup sur le prochain président. Irénée Herman Mbo, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM. Au Mali, le déploiement des bataillons de l'armée reconstituée continue. Après 400 hommes à Kidal, 300 sont arrivés à Tombouctou cette semaine. Ces unités militaires sont dispatchées dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Elles ont les mêmes missions de sécurité que les forces armées maliennes. Elles doivent sécuriser les personnes et leurs biens et faciliter le retour des services sociaux de base dans toutes les régions nord du Mali. Notre correspondant Kassim Traoré nous en dit plus.
Camp 1 de Kidal, au camp général Ablaye Soumaré, le jeudi 13 février 2020, c'est l'arrivée du bataillon de l'armée reconstituée à Kidal. Commandant Mamadou Keïta, chef de l'armée reconstituée à Kidal.
Nous retrouvons le camp général Soumaré, c'est vraiment, nous sommes combien. C'est le souvenir, nous manquons depuis longtemps. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes bienvenus chez nous, nous sommes très contents. Nous venons pour préparer le retour de l'administration malienne. Donc, c'est à ce moment-là que nous avons assuré la sécurité qui parle bien sûr de profession, des personnes et des biens, ne peut pas parler de cantonnement, puisqu'on ne peut pas faire ce travail et faire cantonnement.
Ces ex-rebelles et combattants ne pouvaient pas rester en marge parce qu'ils peuvent constituer des menaces pour le pays.
Cette armée reconstituée intègre des gens qui ont pris les armes contre leurs frères, qui ont tué des Maliens et ils sont récompensés aujourd'hui au sein de l'armée avec des grades. Une armée reconstituée pour le Nord seulement. Mais pourquoi le faire pour seulement le Nord? Surtout, on a affaire à des séparatistes. Et c'est une manière de préparer une armée pour pouvoir contrôler l'espace Azawad, comme ils le disent. Il y a des inquiétudes. C'est pourquoi je suis contre.
Alousseni Touré, éditorialiste.
Moi, c'est l'appellation qui me dérange. Sinon, moi, l'esprit, je suis pour ça. Quand on dit armée reconstituée, alors que nous avons une armée, c'est suite à un accord qui est là. Après l'accord, c'est qu'ils étaient un moment contre la République, ils ont accepté de rentrer dans la République. Et à part l'appellation, je ne suis pas contre l'esprit que le fait qu'ils sont revenus. Et le fait qu'ils acceptent de rentrer dans la République avec les couleurs nationales. Donc moi, je trouve que c'est une très belle chose.
Déjà, l'armée reconstituée de Kidal a le soutien de la population, des notables et des élus. C'est ainsi que le député de Abeibara, dans la région de Kidal, a offert un taureau au bataillon de Kidal, Amada Agbibi.
Kidal, c'est une région malienne, restera malienne. Aujourd'hui, votre présence marque un grand pas vers l'histoire de notre pays. Toutes les populations de Kidal sont contents quand ils ont entendu votre arrivée, ils sont là, ils sont avec vous et tous les élus, les notables, tout le monde. Au nom des députés de quatre cercles de Kidal, je suis venu présenter leurs félicitations qu'ils seront là après. L'armée malienne doit être partout sur le territoire malien. L'accord d'Alger, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. L'armée fait la garantie de cette réconciliation.
Après le déploiement des bataillons de Kidal et Tombouctou, les régions de Gao, Menaka et Taoudeni attendent leur armée reconstituée afin de faciliter le retour des services sociaux de base et les symboles de l'État dans les régions nord du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Les veya, la banane, l'ananas ou encore le palmier à huile sont quelques monocultures qui occupent des milliers d'hectares dans les zones reculées du Cameroun. De nombreux riverains et la société civile réclament de l'État une meilleure réglementation de la monoculture du palmier à huile. Reportage dans les villages du sud et du littoral du Cameroun avec notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Nous sommes à Pongo Aviation, un petit village au sud du Cameroun. La communauté accuse la société camerounaise des palmiers de polluer l'unique rivière du village par les eaux déversées par son usine d'huilerie. Hervé César Mimpa, notable au village Pongo Aviation.
On s'en servait pour la lessive et même pour bien d'autres besoins. Cette dame même que vous voyez là, en train de faire la lessive, elle l'utilise un peu à ses risques et périls parce que l'eau est complètement polluée.
L'accusation est rejetée par l'agro-industriel qui dit avoir investi plus de 4 milliards de francs CFA depuis 2011 pour le traitement des eaux. Joseph Mengue, secrétaire général de la société camerounaise des palmiers.
C'est un système qui fait passer des eaux de l'usine et des effluents dans 5 bassins successifs. Au bout de la chaîne, on recueille une eau suffisamment inoffensive.
Au Cameroun, l'opinion est divisée sur la monoculture du palmier à huile. Elle occupe plus de 34 000 hectares de terre cédés par l'État en 2000 au groupe Sorfin. Docteur Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement.
Qu'on arrête le rythme de cession des terres, qu'on attende d'avoir une décision, une politique définitive de développement du palmier à huile.
Pierre Mbaka est planteur au village Mbambou dans le littoral, où la société camerounaise des palmiers a installé une usine d'huilerie.
Depuis la privatisation, moi je pense que les installations de la Socapalme sont bienvenues chez nous, dans notre village. C'est grâce à ça que je vis.
L'activiste Emmanuel Elon soutient que la pauvreté sévit sur l'ensemble des sites de production industrielle de l'huile de palme, comme ici, dans son village Mbondjo 2, où une vaste plantation de palmiers à huile occupe les terres. L'agro-industriel rejette cette accusation. Anne-Audrey Kongolo, administratrice de la société camerounaise des palmiers.
En ce moment, il y a 15 mairies qui sont bénéficiaires d'action Socapalme, donc l'activité de la Socapalme est bénéfique pour tout le monde.
Pour calmer la colère des riverains, l'État a créé une plateforme de dialogue entre ces derniers et la société camerounaise des palmiers en vue d'examiner leurs doléances et répondre à leurs besoins. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Danse traditionnelle, poésie musicale, course de chevaux, le chameau plutôt, le menu du festival de l'Aïr à Iférouane, au nord d'Agadez au Niger, continue d'attirer de nombreux participants. Malgré les inquiétudes concernant l'extrémisme islamique dans la région, ils sont des milliers à venir y assister chaque année. Arzuma Compaoré.
Le festival de l'Aïr, considéré comme l'un des rassemblements les plus importants pour célébrer la culture du peuple Touareg, a lieu depuis 2001. Comme lors de chaque édition, la culture Touareg, ses femmes, ses hommes, sa musique, sa danse, sans oublier la beauté de la région, sont célébrés en grande pompe. Brigui Raffini, premier ministre nigérien.
Chiriet, c'est le point de jonction des dunes du Ténéré et le massif de l'Aïr. Vous voyez ce que ça donne comme paysage, un paysage unique en son genre, un paysage qui fait la fierté de notre pays.
La région de l'Aïr, avec ses oasis, ses montagnes et ses dunes de sable, est une destination pour de nombreux touristes occidentaux, mais aussi pour les pays voisins. Diam Diop, ministre sénégalais de l'artisanat.
C'est des moments forts dans la vie de la nation nigérienne par rapport au contexte sécuritaire que nous vivons. Il n'y a pas de doute que le Niger quand même va chercher dans ses valeurs ancestrales pour maintenir une dynamique de développement de paix qui est aussi une dynamique de développement du tourisme.
Depuis la prolifération des groupes armés et extrémistes dans la région du Sahel, le nombre de touristes a diminué, mais le festival reste une aubaine financière pour la région. Harry Touché, un touriste italien.
Pour nous, c'est une chose très très importante pour porter des témoignages en Europe qui est dans le Niger un peu voyager avec la sécurité, le maximum de sécurité, quand les journaux, les télévisions vont dire qu'il n'y a pas la sécurité. Non, c'est faux.
Nous voudrions que nos touristes, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient de l'extérieur, n'oublient pas qu'il y a ces espaces qui les attendent encore, qui les attendent toujours, parce que ici, c'est des ressources éternelles. Nous, nous sommes de passage, mais nous avons le devoir de les conserver intacts.
Malgré les menaces sécuritaires dans toute la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, les organisateurs du festival restent confiants et veulent promouvoir la culture Touareg au-delà des frontières du Niger.
Sur VOA Afrique, vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est ici que s'achève le monde aujourd'hui. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. À la réalisation, Tony Pollack. À la présentation, Nanit Talani. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.